au milieu de la Bible, facile à trouver. Dans l'Ecclésiaste, d'abord, littéralement, ça veut dire celui qui s'adresse à la foule. L'Ecclésiaste, c'était le roi Salomon. Ce roi qui était sage, qui avait une sagesse toute divine, puisque c'est Dieu qui lui avait accordé. C'est aussi un peu un philosophe de la vie. Et je pense qu'il a écrit le livre de l'Ecclésiaste, ça c'est que mon opinion, vers la fin de sa vie, parce qu'il nous raconte toute son expérience de la vie et ce qu'il a fait dans la vie. Et à plusieurs reprises dans ce livre, il va nous donner un conseil. Il va nous dire, après ce conseil, il n'y a rien de mieux. Ecclésiaste 3, verset 22. « Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Car qui le fera jouir dès qu'il sera de ce qui sera après lui ?» Or, dans ce monde où tout est dérisoire, tout est éphémère, comme il dit, le mieux, c'est de trouver de la joie où l'on peut. Mais la joie n'est pas sûre, n'est pas durable. Cependant, s'il y a un sens à ce monde, s'il y a un avenir, un au-delà, un jugement, alors ça change peut-être la perspective de la vie. Il n'y a rien de mieux. On peut interpréter ça de deux façons. Soit on est pessimiste, soit on est optimiste. Alors si vous êtes optimiste, vous allez dire, il n'y a rien de mieux, c'est le top. On ne peut pas mieux faire. Et si vous êtes pessimiste, il n'y a rien de mieux, ça peut signifier c'est dommage. Il faut faire avec, on ne sait pas faire mieux. Alors c'est quoi ce « il n'y a rien de mieux » que nous conseille de faire l'Ecclésiaste ? Et doit-on suivre ses avis ? Est-ce que ce sage qui vivait il y a combien ? 2500, 2800 ans, un truc comme ça. Est-ce que ce sage-là peut nous aider à vivre dans notre monde aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin? Alors, l'Ecclésiaste a commencé son discours en disant « Vanité des vanités, tout est vanité ». Et il le finit à peu près de la même façon. Par là, il veut dire que tout ce qui se fait dans ce monde, ici-bas, sans tenir compte de Dieu, est comme de la vapeur, de la fumée. C'est comme du vent, du vide. Ce n'est pas permanent, ça ne laisse pas de traces, c'est sans résultat durable. Bien qu'on recherche quelque chose de solide, de concret, de durable dans la vie, son verdict reste implacable. Tout est dérisoire, tout est éphémère, tout est vanité. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'au lieu de devenir nihiliste, de dire que rien d'absolu n'existe, qui serait, à mon point de vue, logique, l'aboutissement de son argument... Au lieu de cela, l'Ecclésiaste donne des conseils pour la vie. Et on va en voir un particulier. Mange ton pain avec joie. C'est un de ses conseils pour vivre dans ce monde où tout est passager. Alors comment comprendre sa pensée? D'abord, si tout est vanité, si tout est dérisoire, pourquoi donner des conseils? Les deux choses me semblent à moi incompatibles. Est-ce que parce que faute de sens, c'est à nous d'en créer un? Et ça, c'est une idée qui, d'ailleurs, est assez répandue dans notre monde. Alors, comment comprendre ce paradoxe dans son livre? Alors, pour essayer de déchiffrer sa pensée, il faut essayer de mettre ses conseils en contexte. En lisant ce livre, on constate que « mange ton pain avec joie » fait partie d'une série d'expressions, de conseils relativement semblables, qui sont la conclusion d'une réflexion profonde de sa part. Au chapitre 2, verset 4, il dit « Il n'y a rien de mieux à faire pour l'homme que de manger et boire et de jouir du bonheur au milieu de son labeur. » Au chapitre suivant, verset 12, « Ainsi ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que de jouir du bonheur et de se donner du bon temps durant sa vie. » Au verset 22, « J'ai compris qu'il n'y a rien pour l'homme, rien de bon, sinon de jouir de ses œuvres. » Au chapitre 5, voici ce que j'ai constaté. Le bonheur qui convient à l'homme est de manger, de boire et de jouir de ce qui est bon au milieu de son travail. Au chapitre 8, c'est pourquoi j'ai fait éloge de la joie, puisqu'il n'y a rien d'autre de bon pour l'homme sous le soleil que de manger, de boire et de se réjouir. Puis au chapitre 9, verset 7, « Va, mange ton pain et bois de bon cœur ton vin. » C'est peut-être pour ça qu'on parle autant de cuisine de nos jours, non? On voit donc que ces conclusions, c'est l'aboutissement d'une réflexion profonde de sa part. Il en parle souvent, c'est récurrent dans son livre. Ce sage a voulu savoir ce qui est bon pour l'homme de faire dans ce monde ici-bas, si on ne tient pas compte de Dieu, de la suite. Et c'est ça ses conclusions. Il y arrive parce que la vie a une manière de détruire toutes nos prétentions, d'établir pour nous-mêmes quelque chose de permanent, quelque chose qui a un sens durable. Pour prendre quelques exemples de son argument, au chapitre 2, il parle de ses accomplissements dans la vie. Il dit qu'il a bien travaillé, avec sagesse et compétence, qu'il a réalisé des projets importants, peut-être pour le bien de son peuple ou de l'humanité. Mais finalement, il prend en dégoût tous ses travaux parce qu'il constate que son sort est le même que celui d'un insensé, de quelqu'un qui n'a rien fait de bon. Tous les deux ont le même sort, la mort. De plus, il ne peut pas être sûr que son travail aura un effet durable, un effet permanent. Je ne sais pas si vous avez visité le Panthéon à Paris. Pas moi. Mais je me suis renseigné un peu. Louis XV a fait bâtir ce lieu pour être une église. Il a posé la première pierre en 1764, donc un peu avant la Révolution. Hein. Et le Panthéon fut achevé en 1790, en plein dedans. Et la Révolution, au lieu d'en faire une église, elle en fit une nécropole pour les grands hommes. Louis XV avait destiné ce bâtiment à être une église, ça n'a pas duré. Et ça illustre bien un peu le raisonnement de l'ecclésiaste. On fait quelque chose, et puis les autres en font autre chose. L'ecclésiaste dirait, voilà encore une vanité. Et en plus, ce lieu témoigne de la fin de chaque homme, qu'il soit religieux ou athée. Peut-être bâtit-on dans l'espoir de laisser une trace, pour se rassurer qu'on est important, que son temps sur terre n'était pas qu'une vapeur. mais qui sait si un autre ne prendra pas la suite et défera tout ce qu'on a fait, un peu comme nos gouvernants successifs. Alain Duhamel a écrit un livre qui illustre bien le propos, La marque et la trace, dans lequel il compare les septennats de Gaulle et de Mitterrand. Donc laisser une marque, c'est quelque chose qui importe pour les hommes. Et de toute façon, même si notre action a une influence durable, une fois dans la tombe, nous n'en saurons rien. On n'en retire aucun avantage. Donc le sage conclut, il n'y a donc rien de mieux à faire pour l'homme que de manger, de boire et de se réjouir du bonheur au milieu de son labeur. De plus, au chapitre 3, il dit même que si on s'applique avec intelligence pour comprendre la vie et l'œuvre de Dieu, cela aussi est insaisissable. C'est au chapitre 3, verset 11, « Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur, aux hommes, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. » Finalement, c'est les temps et les circonstances de nos vies qui sont nos maîtres, qui nous dominent. Il en va de même du riche comme du pauvre. Il en va de même du sage et de l'insensé. Il me semble entrevoir, et peut-être ai-je tort, que les scientifiques étudient l'univers justement parce qu'ils pensent qu'il y a un ordre, un sens des choses quelque part. À la question « Quel est le sens de la vie ?», les hommes de notre temps pensent généralement qu'il n'y a pas de sens absolu, que c'est à chacun de créer son propre sens. Plus rarement, ils pensent même que la question est idiote, parce que dans un monde qui n'a pas de sens, c'est inutile de poser cette question. Et cette dernière opinion rejoint un peu la conclusion de l'Ecclésiaste. Tout est vanité, les questionnements compris. Ainsi, je conclue qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour l'homme que de jouir du bonheur, de se donner du bon temps durant sa vie. Et finalement, au chapitre 9, l'Ecclésiaste constate que tout est pareil pour tous. Un même sort atteint le juste et le méchant. On pourrait espérer qu'il y ait une justice dans ce monde, donc un sens. Mais cela, dit-il, est contredit par l'expérience. Si tu commets un meurtre, ta fin, c'est la mort. Si tu obéis aux lois, ta fin, c'est la mort. Si tu triches sur tes impôts, ta fin, c'est la mort. Si tu aides les gens et fais du bien, ta fin, ta récompense, c'est la mort. Si tu donnes tout ce que tu possèdes aux pauvres, ta récompense, c'est aussi la mort. Il se peut que je fasse quelque chose de bien dans ma vie, que j'aide une personne. À quoi ça sert ? Finalement, elle aussi, elle mourra. Il n'y a qu'une certitude pour l'homme, c'est la mort. Et comme nous le disait Guy tout à l'heure, c'est la seule vraie démocratie. C'est la seule égalité dans ce monde. Devant la mort, on est toujours seul, je pense. La mort, c'est pas très gai comme sujet. Mais c'est vrai que s'il n'y a que cette terre, ce monde, et pas plus, pas de Dieu, pas d'au-delà, l'argument de l'Ecclésiaste tient. Le poids de sa logique est terrible, mais il est juste. Donc, si on ne tient pas compte de Dieu, sous le soleil, tout est aléatoire, tout est éphémère. Où est le sens dans tout cela ? Il n'y a pas de sens. s'il n'y a pas de Dieu, pas d'absolu, pas quelque chose au-delà du soleil, il est mieux d'être relativiste que nihiliste. Donc notre ecclésiaste argumente comme un relativiste. Mais dans un tel monde où il n'y a qu'une certitude, c'est la mort, alors qu'est-ce qu'on fait? La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'essayer de trouver la joie et le bonheur si l'on peut. C'est logique. Au moins, on peut s'amuser pour un moment, pourvu que ça ne gâche pas le bonheur des autres. Combien de gens vivent-ils ainsi aujourd'hui? Bizarrement, cette seule certitude que l'on a, l'homme répugne à y réfléchir. L'homme répugne à penser à la mort qui est au bout de la route. Alors nous y répugnons peut-être parce qu'elle a le don de gâcher le bonheur que nous cherchons. Vous savez, si vous voulez tuer une conversation à table, parler de la mort. Eh bien, l'ecclésiaste, il est comme cette personne-là, embêtante. Il ne recule pas devant cette réalité. La conclusion qu'il tire n'est rien de plus que ce que nous donne notre monde. Prends donc tout le plaisir que tu peux, car demain, tu mourras. Il dit que la vie sous le soleil est ainsi. La perspective n'est pas gaie. Elle est très pessimiste. Mais peut-on faire autrement? Si on ne tient pas compte de Dieu, c'est seulement cela qui reste. Mais s'il y avait une autre perspective? Déjà, nous avons lu, Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Et à la toute fin du livre de l'Ecclésiaste, Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ça doit être le dernier verset. C'est dire qu'il y a autre chose que cette vie sous le soleil. Il y a autre chose, et cela change tout. S'il y a autre chose au-delà de cette vanité, si Dieu existe et s'il s'intéresse aux hommes, alors cela bouleverse toute notre vision de la vie. Si Jésus est vraiment fils de Dieu, s'il est vraiment ressuscité, alors l'histoire des hommes n'est plus jamais la même. Elle ne peut rester une répétition ennuyeuse et sans fin, et ça change toute la perspective. Mais est-ce qu'on peut le croire? Vous vous souvenez tous de l'histoire de Thomas, ce disciple du Christ qui avait du mal à croire, lui aussi. Dans le contexte, Jésus est déjà paru aux autres disciples, Thomas n'était pas là. Et quand finalement Jésus se montre à lui, alors il croit. Et Jésus lui dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux. Pourquoi heureux? Parce qu'on sait que tout ça n'est pas vain. Il y a quelque chose de plus. La vie ne s'arrête pas au tombeau. Donc si quelqu'un parmi nous a des doutes, je l'encourage à tout faire pour voir si c'est la vérité. Les conséquences sont énormes. Si vous croyez en Dieu et que vous espérez en lui uniquement pour cette vie, sans croire à une résurrection, à une vie future, alors Paul dit que vous êtes le plus malheureux des hommes. Et pour nous tous qui croyons que Christ est ressuscité et que nous pourrons ressusciter avec lui, alors nous pouvons vivre pleinement notre existence ici. Est-ce que dans cette vie que Dieu nous donne sur la terre, il nous interdit les joies et les plaisirs de l'existence? Certainement pas. Salomon dit « Va, mange ton pain avec joie, bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Et ce n'est pas seulement Salomon qui dit ça. Le peuple de Dieu était dans l'ancienne alliance appelé à se réjouir au cours des nombreuses fêtes du calendrier juif. Un seul exemple, pour la fête des tabernacles, et on le voit dans le Deutéronome, au chapitre 16, verset 14. « Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, et le lévite, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes, dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. » Ce n'est pas une petite fête, ça a duré 7 jours. Et puis n'oublions pas que Jésus, pour son premier miracle, a changé l'eau en vin. N'oublions pas non plus qu'on l'a accusé d'être un mangeur et un buveur. Dieu ne veut pas que nous devenions des ascètes. Nous pouvons boire, manger, nous réjouir, sachant que ce sont de bonnes choses que Dieu nous donne. Et nous pouvons rendre grâce pour cela. En plus, je pense qu'elles sont comme un avant-goût d'un avenir heureux et glorieux, de ce que prépare. Et qu'Ésaïe décrit ainsi, c'est Ésaïe 25, « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. » Mais peut-être faudrait-il ajouter que se réjouir, jouir de la vie, ce n'est pas le seul but de notre vie. Comme s'il n'y avait pas d'avenir. La recherche de plaisir ne doit pas être notre seule règle, notre seul objectif. Paul disait à Tite que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Christ nous a confié une mission, c'est d'être utile aux hommes, de partager la bonne nouvelle, qu'il est vraiment ressuscité et qu'il nous permet de vivre de sa vie, de ressusciter avec lui. Et que cette perspective change radicalement notre vie. Et une part de cette mission est résumée par l'apôtre Pierre. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Or, pour conclure, profitons des bonnes et belles choses de la vie. Sans regret, sachant que tout est don de Dieu. Mais n'oublions pas que notre mission principale, c'est de faire connaître aux hommes ce Dieu qui veut leur bonheur, et leur bonheur pas seulement pour cette courte vie. Amen.